Il est 11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui, nouvelle émission en partenariat avec la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire. J'ai le plaisir de recevoir Priscille Atoy. Bonjour.
Bonjour Mélissa.
Alors Priscille Atoy, vous êtes enseignante chercheure responsable pédagogique du Master 2 à Prodiv à l'Université de Tours. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous avoir dans cette émission pour parler de la pratique du français à l'île Maurice.
Alors, la pratique du français à l'île Maurice, je pense qu'il faudrait peut-être situer déjà l'île Maurice. Enfin, et peut-être parler aussi de mes sujets de recherche de manière générale pour que les auditeurs comprennent ce que je fais. Alors moi, je m'intéresse, je suis enseignante-chercheur en sciences du langage, en sociolinguistique et en didactique des langues à l'Université de Tours. Je m'intéresse de manière très large au plurilinguisme, aux questions de francophonie, à la didactique du français, langue maternelle, langue seconde, langue étrangère, au contact de langues, aux situations diglossies, au rapport entre langue et pouvoir, à tout ce qui touche les langues de manière générale et donc aux discriminations linguistiques, aux langues minorées, etc. Et donc on va parler de tout cela aujourd'hui. Pour vous situer l'île Maurice, donc l'île Maurice se situe dans l'océan Indien, à côté de Madagascar, à l'est de Madagascar.
C'est un endroit où on parle le français, mais peut-être que vous voulez revenir sur les différentes langues, les différentes personnes qui vivent à l'île Maurice, pour qu'on comprenne aussi pourquoi on parle français et d'autres langues, bien sûr, à l'île Maurice.
Alors, on dit que l'île Maurice est un vrai laboratoire de langues. Ça a été une colonie française. C'est un territoire plurilingue, pluriculturel, et pour comprendre comment s'est peuplée cette île et ce mélange de langues, il faut savoir que l'île a d'abord été portugaise et hollandaise au 15e, 16e siècle. Les Portugais et les Hollandais ne sont pas restés très longtemps pour des raisons liées au climat. Principalement, et les deux fortes colonisations, enfin les deux colonisations qui ont marqué l'île, donc, sont les colonisations françaises de 1715 à 1810, pendant près d'un siècle, et ensuite cela a été suivi par une colonisation britannique de 1810 à 1968, ce qui fait que deux des langues les plus parlées, à Maurice, donc, c'est l'anglais et le français. Et ensuite, pour bien comprendre tout cela, l'île Maurice a été indépendante en 1968 et elle a été proclamée en 1992 république. Voilà. Et pour revenir à cette population très métissée, donc colonisation anglaise, colonisation française, à l'époque, l'époque de l'esclavage, la canne à sucre sur les îles, et on a eu besoin d'une forte main-d'œuvre, donc d'esclaves, et de ce qu'on appelle des indentured laborers, des travailleurs engagés qui sont venus également de l'Inde, en plus de venir de l'Afrique, donc du Mozambique, du Sénégal, etc. Il y a aussi eu ces coulisses, comme on les appelle, qui venaient de l'Inde, de différentes parties de l'Inde, et également des commerçants qui venaient de Chine également. En plus donc des anciens colons qui venaient de France qui sont restés suite à la colonisation britannique, il y a eu toute une mise en place, tout un accord qui a été fait pour que ces anciens colons restent sur le territoire britannique ensuite, puisque c'est un territoire britannique, et ce qui fait que voilà, grosso modo, qui est toutes ces langues, l'anglais, le français, le bhojpuri, le tamoul, le télégou, le marathi, qui sont des langues indiennes, avec le Hakka et le cantonais qui sont des langues chinoises. Malheureusement, les langues dites africaines, entre guillemets, elles ont été gommées, elles ont été effacées. On parle plutôt du créole mauricien qui est né un petit peu à la suite de tout ce métissage.
Et alors, qui habitait cette île avant l'arrivée des Européens?
Alors, j'aime dire que les premiers habitants, c'était les dodos. Le gros oiseau, c'est le dodo qui peuplait l'île. Il n'y avait pas... j'aime pas forcément ce terme d'autochtone, mais voilà, il n'y avait pas forcément de peuple dit indigène, entre guillemets. J'aime à dire que c'était les dodos qui peuplaient l'île.
Voilà, donc là, on comprend mieux pourquoi il y a cette richesse linguistique à l'île Maurice. Alors peut-être qu'on peut commencer par écouter justement un extrait sonore que vous avez choisi. Alors c'est un podcast sur les lourds bagages de nos langages, la canne à sucre et préjugés. Est-ce que vous voulez nous dire un mot à propos de ce contenu avant qu'on en écoute un extrait ?
Je pense que j'ai choisi cet extrait de Canne à sucre et préjugés, qui est un podcast qui existe depuis pas très longtemps. Hein. Nos langages, nos identités sont souvent à Maurice associés à ces préjugés. Et que ici, dans cet extrait, plus particulièrement, plus généralement plutôt de manière générale dans ce podcast, elle montre qu'il faut parler français pour être pris au sérieux, que la langue c'est un vrai marqueur d'identité ethnique. Voilà. Après, je vous laisse apprécier.
Dans son livre L'île Maurice des langues et des lois, le professeur Arnaud Carpouran écrit. D'où vient cette place démesurément importante qu'occupe l'ethnicité dans toute question relative aux langues à Maurice, et cette impression qu'il existe un lien inévitable entre l'évocation des droits linguistiques et la question d'appartenance ethnique. Pour répondre à cette interrogation, il faut remonter dans l'histoire de Maurice et les politiques de langue adoptées au cours de celle-ci. Mon enquête m'amène d'abord à échanger autour de moi, dans mon entourage proche, notamment avec mes collègues au travail, puisque nous n'avons pas tous la même langue maternelle et que leurs avis me donnent à réfléchir. Je travaille avec Doriane Létourdi depuis 2 ans maintenant. Nous sommes assises côte à côte tous les jours. Nous nous parlons en français depuis le début de notre collaboration. Une langue qu'elle maîtrise parfaitement et qu'elle semble avoir fait sienne, même si je sais que sa langue maternelle est le créole. Lorsque je lui pose la question de son rapport aux langues, je reste ébahie par la franchise et le tranchant de sa réponse.
Anglais en avant, parce que normalement, tout facture qu'il nous recevoir, tout démarche qu'il nous fait, lit en anglais. En fait, avant, mon participe comprend qu'il fait, après, mon comprend, c'est anglais, comme si pour moi, il est plus faux. C'est une langue vraiment, il est plus faux. Donc, là, après second, il vient français. Et après, au dernier, il vient créole. Ben, comment me dire, moi, me trouve, comment moi, la peau noire, c'est-à-dire. Créole, nous en bas, banlin, j'ai de la peau blanc, j'ai de la haut. C'est comme si ça qui m'en apprend depuis petit, m'en apprend ni comme ça, m'en connaît ni comme ça. Plus important, par exemple, me donner un exemple, si jamais moi, personnellement, m'en ai une démarche pour faire, et si me téléphoner pour dire que je suis mon madame intel, etc., mon vie, telle démarche, tel détail, ou je sais pas quoi, mon remarqué, moi, si mon cause créole, il prend beaucoup le temps, ou soit, ben là, capable de dire, moi, au bout du fil, je pourrais appeler moi après, etc. Mais si mon cause français, parce que la personne au bout du fil, je pas connu moi, je t'en dis pour la voix, mon remarque ça plusieurs fois, si mon cause français, je plie de moi, ben détail qui est important, comme si je plie pour moi compte, là. Et ce qu'ils ont dit, comme on a des mots, pour faire au téléphone, mon cause français, direct même. Et mon démence fait plus vite, mon détail fait, je te rappelle moi. Nous bizarre apprendre français et anglais dans l'école, mon apprendre lit. Et les parties en pratique du tout, parce qu'avant, je travaille dans l'école française. Mais maintenant que je travaille dans l'école française, donc tous les jours, mon cause français. L'anglais, comme si appartient à une qualité d'immune, surtout ban blanc. Parce que c'est autre langue, ça.
Mes échanges avec Doriane me permettent de comprendre que quoi que je fasse, que je la maîtrise ou pas, la langue créole dans l'imaginaire d'une bonne partie des Mauriciens n'est pas ma langue. La langue aurait-elle donc une couleur? Je comprends grâce à cet échange très ouvert à quel point la langue est marqueur d'identité ethnique à Maurice. Même si Doriane maîtrise parfaitement le français, qu'elle semble se l'être appropriée, ce n'est pas sa langue, selon ses propres paroles. Elle le dit avec aplomb. Pour elle, le créole est la langue des Noirs, le français, la langue des Blancs. C'est ce qu'elle a appris. J'ai donc voulu comprendre ce qui se joue dans un discours aussi catégorique. J'ai voulu savoir comment et pourquoi ce que nous devrions voir comme une immense richesse, une possibilité d'ouverture à d'autres mondes, est encore une fois source de séparation, voire de ségrégation.
Voilà, c'était un extrait que vous avez choisi pour cette émission du podcast « Les lourds bagages de nos langages, canne à sucre et préjugés ». Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire suite à cette écoute de ce podcast?
Alors, je vais peut-être traduire ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si ça a été compréhensible, totalement compréhensible, puisqu'il y a une partie où elle parlait en créole. Dorine, elle travaille à l'École du Nord, qui est une école française. Et elle dit donc qu'elle a besoin de parler français, par exemple, pour être prise au sérieux lorsqu'elle se rend à la banque, par exemple, qu'elle a remarqué que si elle se rendait dans ce type d'endroit, en parlant en créole, on ne la considérera pas de la même manière que si elle s'adresse au personnel en français. Et qu'elle, en étant, comme elle l'a dit, la peau noire pour la cité, comme elle le dit, qu'elle a cette peau noire entre guillemets, elle n'est pas considérée de la même manière si elle parle en français. Donc elle préfère parler en français. En gros, c'est ce qu'on peut retenir, je dirais, de cet extrait que j'ai choisi, donc qu'il y a une certaine hiérarchie entre les langues, donc cette situation de diglossie, terme qui est utilisé par les linguistes, où il y a une langue ou deux langues qui sont considérées comme étant supérieures aux autres langues qui existent sur le territoire.
Alors, est-ce qu'il y a des langues qui seraient plus officielles que d'autres à Maurice?
Alors, dans la Constitution, on n'a pas forcément de langue officielle, mais l'anglais est considéré comme étant la langue officielle de facto. Alors, je m'explique. L'anglais est la langue considérée comme la langue de la Constitution, puisque c'est la langue du judiciaire, des documents administratifs, c'est la langue de scolarisation. Tous les manuels scolaires, etc. La plupart des manuels scolaires sont en anglais. On apprend les mathématiques, l'histoire, etc. en anglais. Donc c'est la langue écrite, alors que le français, c'est la langue de communication orale. C'est la langue des médias. C'est la langue parlée de manière quotidienne aussi par une grande majorité de la population. Et c'est aussi la langue maternelle d'une grande partie de la population également. Donc je dirais que voilà, il y a ces langues, l'anglais et le français, qui existent avec le créole mauricien, qui est donc, je dirais, la langue de la quasi-majorité de la population mauricienne. Elle est comprise, elle est parlée par presque tout le monde.
Alors, j'insiste sur la langue anglaise avant de pouvoir se pencher enfin sur le créole et le français de Maurice. Il y a quelque chose, je crois, qui s'appelle, avec mon très bon accent, British Rule. C'est quoi ?
Alors, le British Rule, il date de cette colonisation anglaise, où les Anglais ont pris possession, entre guillemets, de l'île Maurice suite à la défaite des Français en 1810. Et ils ont imposé donc ce qu'on appelle ce British Rule, qui s'entendait comme ceci. Donc, l'accord, c'était que les anciens colons français demeurent sur le territoire, demeurent à l'île Maurice, tout en maintenant la langue française vivante. Donc les médias pouvaient encore être en français, ils pouvaient encore communiquer en français, mais la langue, on va dire officielle entre guillemets, la langue de l'administration, c'était l'anglais, ce qui fait que les deux langues cohabitaient. Voilà, si je peux résumer cela ainsi par rapport aux langues. Il y avait vraiment, enfin, ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'au XIXe siècle, on évoquait donc ces aires géographiques où on parle d'une littérature de langue française. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'île Maurice était un des pays où il y a eu un foisonnement de production littéraire en français. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque voilà, on était un petit peu à cheval entre le British Rule et un reste de colonisation française.
Alors dans l'extrait qu'on a écouté, Dorian dit que il me semble que l'anglais c'est la top langue. En fait, c'est la langue peut-être la plus prisée, la plus valorisée, si j'ai bien compris. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui se considèrent aussi comme délaissées linguistiques parce qu'elles ne parlent pas l'anglais ?
Alors, c'est une vaste question, hein, une question complexe. Il faut savoir qu'à l'île Maurice, on va plutôt s'adresser en français. Si vous allez à des séminaires ou à la banque, etc., on aura plutôt tendance à parler en français. La langue formelle à l'oral, c'est le français. Il peut bien sûr arriver qu'on parle anglais s'il y a des anglophones présents. Et dans le choix, c'est vrai que dans le choix des langues, on n'a pas forcément, je ne peux pas forcément parler de choix puisque on est scolarisé en anglais et en français. Enfin, je veux dire, à l'école, la langue de scolarisation, c'est l'anglais, mais le français est présent, comme je le disais, à l'oral. Par exemple, si un élève ne comprend pas l'anglais, l'enseignant va shifter, pour utiliser un anglicisme, à l'anglais ou au créole. L'anglais sera utilisé essentiellement à l'écrit et pas forcément toujours à l'oral.
Pour en venir au français, est-ce que c'est juste déjà de dire qu'il y a des Français à l'île Maurice, qu'il n'y a pas qu'une langue française, mais qu'il y en a plusieurs?
Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a des variétés de français, ce qu'on appelle donc du français mauricien. Et en fonction de son appartenance ethnique, de son appartenance communautaire, on ne parlera pas forcément le même français. Bien sûr, on parle du français de France, entre guillemets, puisque, voilà, encore une fois, le français de France, c'est très vaste aussi, ça veut tout dire et ne rien dire en même temps. Mais on peut dire qu'il y a des français mauriciens. Comme je le disais, le français qui est parlé par ce qu'on appelle des franco-mauriciens, donc ce sont des mauriciens d'origine française, mais ce qui est intéressant aussi à voir ici, c'est que dans le terme franco-mauricien, on appelle donc des franco-mauriciens des personnes ayant la peau blanche. Donc ils peuvent aussi être d'origine anglaise ou irlandaise, mais ce sont des franco-mauriciens, puisqu'ils parlent, ils parlent français. Pour la petite anecdote, ça me fait penser lorsque j'ai été professeur des écoles dans une école française. Je me souviens que j'avais une élève qui avait 7-8 ans qui s'appelait MacGregor, mais elle se considérait comme franco-mauricienne alors qu'elle n'avait clairement pas des origines françaises. Mais je m'égare un petit peu, mais voilà. C'est pour vous dire que voilà, on est un peu dominé, enfin on est un peu classifié entre guillemets en fonction de sa couleur de peau. Et là, je crois que je me suis éloignée de votre question.
C'est de dire donc il y a des langues françaises à l'île Maurice.
Oui, pardon. Donc voilà, donc on va parler du français des blancs mauriciens. Les blancs mauriciens, entre guillemets, j'utilise des termes du terrain, hein, quand vous les entendez parler, donc ils ont un accent très particulier qui est différent d'un indo-mauricien qui parlera français, par exemple, qui a un accent différent, ça peut aussi être ce qu'on appelle un créole. Un créole, c'est le terme créole est utilisé à Maurice pour parler des personnes métissées ou de couleur de peau un peu plus basanée. Et cette personne, elle parlera aussi un français, mais qui sera différent d'un indo-mauricien ou d'un blanc mauricien. Donc on peut dire, oui, en effet, qu'il y a des français, des variétés de français. Mais bien sûr, tout le monde arrive à se comprendre. C'est une question d'accent et de vocabulaire et de, voilà, et de manière de parler de, en fonction de sa communauté.
Et alors, sur le, pour ce qui est du français mauricien, est-ce qu'on peut dire que finalement, il définit mieux une réalité que le français de Tours, par exemple, là, qui définit mieux la réalité de l'île Maurice?
Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, il est propre à l'île Maurice. Il y a des termes qu'on utilise qui définissent, bien sûr, le contexte des situations particulières. Et là, je pense surtout à des termes utilisés, on va dire, au niveau de la gastronomie, des termes propres à la nourriture, aux aliments, qui ne peuvent pas être traduits, par exemple, en français. Je pense, par exemple, au fameux, ce qu'on appelle du dal pourri ou du dol pourri. Dol, donc, qui signifie, enfin, pois chiche, qui vient du terme indien, hein, dal, et pourri, donc, pareil, pourri, c'est aussi un terme issu de la langue anglaise. Et je me souviens aussi, enfin je pense à ces anecdotes que j'ai vécues avec mes élèves qui me disaient: ah, mais c'est, en fait, ça, on va pas, c'est dol pourri, ça donne pas envie puisqu'on pense que c'est pourri et qu'on n'a pas envie d'en manger. Et en fait, l'élève, il l'a trop dit, bah, c'est une crêpe, c'est comme une crêpe à base de pois chiches. Voilà, mais forcément, c'est pas forcément une crêpe à base de pois chiches, et le terme en français mauricien, on va l'appeler du dal pourri, qui ne peut pas forcément se traduire en français.
Et alors, cette langue française, est-ce qu'elle est étiquetée, comment dire, ce que vous expliquiez tout à l'heure là, suite à l'écoute de l'extrait, que ce que disait la Doriane, c'est qu'elle a aussi la peau noire. Donc, est-ce que le français, il est étiqueté ou relié à des personnes peut-être qui ont la peau blanche, qui sont, je ne sais pas, est-ce qu'elles ont un niveau social particulier, est-ce qu'elles ont un ancrage dans une religion particulière?
Alors oui, ça a toujours été, enfin ça a longtemps été le cas, mais je pense que les choses changent progressivement. Il y a 50 ans, oui, le français était associé à une couleur de peau. C'était la langue des franco-mauriciens, entre guillemets. Mais maintenant, enfin, 50 ans, plus de 50 ans après l'indépendance, je pense que les choses ont changé. Enfin, je l'ai vu, je l'ai constaté de visu. On parle maintenant de ce qu'on appelle, entre guillemets, des néo-francophones, hein, des mauriciens qui ont vécu à l'étranger, qui ont fait leurs études dans des pays francophones en France ou au Canada et qui reviennent à l'île Maurice et qui parlent et qui maîtrisent un français, on va dire, entre guillemets, standard. Et qui, oui, qui s'approprient la langue et qui considèrent que le français, c'est leur langue. C'est aussi le cas, enfin, des jeunes voilà, qui ont une trentaine d'années, qui ont été élevés dans cette langue française, avec cette langue française, puisque leurs parents, puisqu'il faut savoir que voilà, les parents, à l'époque, choisissaient de parler en français à leurs enfants, plutôt que le créole mauricien, et donc ils ont été élevés en langue française et ils considèrent que le français, c'est leur langue à part entière, tout à fait, même si bien sûr il y a toute une discussion quel type de français, mais ça reste du français, ce n'est pas du créole.
Est-ce que vous voulez nous faire écouter autre chose?
Alors on va peut-être écouter Amarnath Hossaini qui va nous parler de Tizan. Et le loup, Amarnath Hossaini, c'est un très bon ami à moi qui est écrivain de littérature jeunesse à l'île Maurice, qui se passionne pour la langue française, pour le créole mauricien, et qui est l'auteur de cet ouvrage, Tizan et le loup.
Un zoo d'un pays, sur une île tropicale, vivait un garçon qui s'appelait Tizan. Espiègle, il avait un secret, des arbres à bonbons cachés dans la forêt. C'est lui qui les avait semés, arrosés, fait grandir. Il venait souvent les voir en cachette, veillant à sa plantation secrète. Car ces fameux gâteaux-canettes avaient beau faire la joie des petits gourmands de son île, personne ne savait d'où ils venaient. Chut, pas dire à personne.
Nous venons de voir dans cet extrait qu'il y a dans Tizan et le loup des expressions en créole mauricien traduites en français. Par exemple, un zoo d'un pays.
Ben pourquoi pas faire découvrir la saveur des expressions créoles et aussi valoriser la langue créole à travers ce personnage de Tizan qui est mauricien au fait. Voilà. Donc on a laissé, on n'a pas traduit, mais on a laissé les expressions dans le texte avec, bien sûr, au bas, on a traduit pour que les autres puissent comprendre les expressions. Il faut aussi préciser que Tizan et l'élu a été publié en deux versions. Il y a aussi la version anglaise, Tizan and the Wolf. Et dans la version anglaise aussi, les expressions créoles sont très présentes. Et voilà.
Merci pour cet extrait, Priscilla Toy. Qu'est-ce que vous aimeriez nous en dire ?
Alors sur Tizan et le loup, Tizan et l'arbre à bonbons, Amarnath Hosseini, il a souhaité créer ce personnage mauricien. Pour Tizan, c'est un petit garçon. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu la traduction de Petit Jean en créole, donc Tizan. Donc personnage de la littérature mauricienne pour les enfants. Il y a pas mal d'aventures, hein. Donc Tizan et le loup, Tizan et l'arbre à bonbons, vraiment ancré dans des réalités mauriciennes. Il parle des gâteaux canettes. Je ne peux pas forcément traduire, je n'arriverai pas à traduire, mais voyez, canette qui veut dire des billes. Donc des gâteaux qui ont des formes de billes. Donc voilà, qui reflètent vraiment cette réalité mauricienne. Et
alors là, ce qu'il explique aussi, c'est que dans cette œuvre, il y a des expressions en créole qui sont mises dans le même texte que un texte en français. Et donc ça, cette idée, tout à l'heure vous disiez switcher d'une langue à l'autre, est-ce que dans les conversations courantes à l'île Maurice, c'est quelque chose que les gens font spontanément, de passer d'une langue à l'autre, ou de traduire des expressions comme des calques en fait, d'une langue à l'autre ?
Ah oui, ça arrive très 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 souvent de shifter, donc ce qu'on appelle le code switching, code switching ou l'alternance codique. On passe très très facilement, sans s'en apercevoir, d'une langue à une autre. Même dans une phrase, vous pourrez avoir trois langues qui se mélangent. Et je me souviens avoir rencontré des personnes qui me disaient « mais je ne comprends pas, en fait, même si je suis anglophone, les personnes savent que je suis anglophone et ils utilisent de l'anglais et du français, même en étant pleinement anglophone, j'ai du mal à ce que mon cerveau switch d'une langue à l'autre. » Mais c'est vrai que pour les Mauriciens, comme c'est aussi un peu le cas pour des Canadiens, hein, anglophones et francophones, de shifter comme ça, de passer d'une langue à l'autre. Par exemple, vous donner un exemple à laquelle... auquel je pense là, on va dire par exemple, tu peux mettre le aircon. Aircon pour dire air conditioner, pour la clim. Tu peux mettre le aircon, fait Marie froid, fait Marie chaud là. Marie pour dire, Marie c'est un adverbe pour dire très, en français mauricien. Il fait Marie chaud, ça veut dire qu'il fait très chaud. Donc voilà, vous... c'est pas forcément compréhensible pour un francophone, français ou un francophone venant de France métropolitaine. Mais voilà, après on s'y habitue.
Mais ça veut dire que les langues sont poreuses d'une langue à l'autre, par exemple, de dire au téléphone « tenez la ligne ».
Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tenez la ligne, hold the line, et parfois il y a des calques comme ça qui se font et ça peut prêter à sourire. Ça me fait penser aussi à une pancarte, enfin une affiche que j'avais vue au cinéma, c'était « tenez la queue ». Pour dire « keep the line », « tenez la queue », que lorsqu'on n'est pas habitué, ça peut faire sourire.
En lisant un de vos articles, hein, donc c'était un article qui s'appelle « Approche de la pluralité du français parlé à l'île Maurice, vers quelle convergence des pratiques d'usage et d'enseignement ?» point d'interrogation. Il était question du malaise créole et de Roger Cerveau. Alors peut-être, Priscilla Toy, que vous aimeriez nous en parler de ce malaise créole et qui était Roger Cerveau ?
Alors, question délicate. Hein, ce terme de malaise créole, il a été utilisé pour la première fois par le père Roger Cerveau, qui est un prêtre, en 1993. Il faut savoir que voilà, dans les prêches, à l'église, dans les sermons, on mélange les langues, le français et le créole sont les langues qui sont utilisées à l'église. Et le père Roger Cerveau, c'est un prêtre qui est considéré entre guillemets comme créole, qui a la peau noire. Et il a parlé de ce malaise créole puisque, pour rappel, la communauté créole rassemble les descendants d'esclaves malgaches, les Africains, indiens, enfin métissés, on parle de métissage, qui sont aujourd'hui un petit peu assimilés entre ces cultures indiennes, européennes, africaines. Et cela crée cette vraie mixité physiologique, je dirais, culturelle, ethnique, etc. Et ce malaise créole peut être défini comme un mal-être qui est vécu par cette proportion de la population qui n'a pas réussi à s'intégrer à la vie moderne. Ça reste encore une question très délicate à Maurice. C'est une définition qui est associée un petit peu directement à l'histoire de l'esclavage, puisqu'ils ont déjà été dépossédés de leur langue, de leur culture. Comme on l'a vu, il existe d'autres langues asiatiques à Maurice, mais pas celles des descendants africains. Donc, ils ont perdu leur culture, leur langue. Ils ont été dépossédés et maltraités par une autre partie de la population mauricienne. Les conséquences seraient donc cette persistance de cette pauvreté, de problèmes sociaux, de marginalisation politique. Qui s'explique donc par ce terme de malaise créole, où les créoles, donc, ils peinent à réinventer leur identité, à se faire une place dans la société. Rosabelle Boswell, qui est enseignante-chercheur à l'Université des Rhodes en Afrique du Sud, qui a travaillé sur ce... qui est beaucoup plus spécialiste que moi, qui a travaillé sur ce malaise créole, qui parle de l'ethnic identity in Mauritius, dans son ouvrage d'anthropologie qui a été publié en anglais. Et depuis, oui, il y a eu beaucoup d'historiens, de chercheurs qui se sont penchés sur ce terme, puisque en 1999, il y a eu ce qu'on appelle, ce malaise créole, c'est vraiment a été à son paroxysme, si je peux le décrire ainsi, puisque le célèbre chanteur de Séga, le Séga, c'est la danse typique mauricienne qu'on écoutera d'ailleurs à la fin. Donc Kaya, c'est un chanteur de Séga créole, chanteur de Séga ou de Ségué, puis Ségué qui est la contraction du Séga et du reggae, une vraie icône de la communauté créole mauricienne qui a été retrouvée mort en détention dans des circonstances obscures. Et il y a une vraie révolte de la population créole en particulier, mais de tous les Mauriciens en 1999, donc qui est un peu révélateur de ce malaise créole. Voilà, si je peux résumer cela ainsi, de manière très, très, très brève. Voilà.
Et donc cette langue créole, comment est-ce qu'elle est valorisée réapproprié.
Mais il faut savoir qu'à l'île Maurice, le créole mauricien est maintenant enseigné comme matière à part entière dans les établissements scolaires depuis une dizaine d'années. Elle est considérée, il y a une volonté, on va dire, politique, une volonté politique. C'est un sujet délicat, donc je prends des pincettes pour en parler. Il y a une réelle volonté politique de faire en sorte que le créole soit reconnu comme langue nationale, comme la langue de tous les Mauriciens, indépendamment de leur couleur de peau. Mais voilà, ce n'est pas encore officiellement le cas, même si c'est parlé, c'est compris par tout le monde. Pour avoir fait du terrain, enfin là, je parle vraiment en tant que chercheur, hein, en tant que scientifique, pour avoir fait du terrain et pour avoir interrogé des témoins, j'ai encore une anecdote. J'avais rencontré un témoin donc, d'origine indienne, donc mauricien, deux mauriciens. L'un était d'origine indienne. Et l'autre, sa compagne, était ce qu'on appelle donc une blanche mauricienne, descendant de Français, lui descendant d'Indien. Ils étaient ensemble, ils étaient en couple. Et il y a eu, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils n'étaient pas d'accord sur comment élever, dans quelle langue élever leur enfant, si jamais ils avaient un enfant. La mauricienne, elle a dit qu'elle ne souhaitait pas parler en créole à Maurice, à son enfant, alors qu'elle était mauricienne, et lui, il souhaitait parler en créole à la maison avec l'enfant. L'enfant qui viendrait avec leur future progéniture. Et il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la langue. Lui, il disait, mais finalement, c'est notre langue à tous les deux, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas en créole ? Et enfin, tout ça pour vous dire que finalement, ils ne sont plus ensemble. Je ne sais pas si ça a été la raison de leur rupture, mais bon, bref, tout cela pour vous dire qu'en étant mauricien, on n'est pas forcément toujours d'accord. Est-ce que le créole, c'est la langue de la communauté créole, donc des descendants d'esclaves, ou est-ce que c'est la langue de la population générale ? Donc, il y a encore tout ce débat autour de la langue créole. Est-ce que c'est la langue de tous les Mauriciens ? Même si, comme je vous le disais, tout le monde la parle, tout le monde parle cette langue, tout le monde la comprend. Certaines communautés ne la revendiquent pas forcément comme la leur. Donc c'est une question assez compliquée, très compliquée même.
Et je me demandais aussi, au même titre, où sont rangés les auteurs qui écrivent en créole mauricien ou en français de Maurice dans les bibliothèques ?
Ah oui, c'est une question intéressante aussi. Dans les bibliothèques, j'aurais tendance à dire, enfin, ça dépend aussi des bibliothèques et des librairies. On parle de littérature française et de littérature francophone. Enfin, là, il y a tout un débat autour de tout cela, puisque souvent, les auteurs français, donc, mais qui s'expriment, enfin, qui choisissent d'écrire en langue française, mais qui ne sont pas d'origine française, sont souvent catégorisés dans cette littérature francophone. Enfin, il y a tout un débat hein, qui existe entre qu'est-ce que c'est que la littérature française, qu'est-ce que c'est que la littérature francophone. Pour citer des auteurs mauriciens connus, Ananda Devi, je ne sais plus, est-ce qu'elle est... Parfois, elle est classée en tant que auteure mauricienne, donc francophone, ou parfois elle fait partie de la littérature française. Ça dépend, voilà, quand je me déplace dans différentes villes en France, j'aime bien aller dans les FNAC et voir parfois comment se fait ce classement. Et dans les différentes librairies, ça dépend de pas mal de choses. Il n'y a pas une réponse type. Le créole mauricien, c'est du créole, hein, c'est pas du français, donc ça ne peut forcément être classé en langue française, en littérature française, mais ça fait partie de la littérature des îles, etc. On voit souvent le créole mauricien dans la littérature de l'océan Indien, pour répondre à votre question.
Mais qu'en disent les auteurs concernés, en fait, de se dire, tiens, là, on m'a mis dans le rayon francophone, là, on m'a mis dans le rayon français.
Bon. Je crois qu'ils sont habitués, hein, ils n'ont pas forcément leur mot à dire, c'est pas forcément de leur, ça relève pas forcément de leur choix. Je pense que déjà se retrouver en rayon en France, c'est déjà bien, donc je ne sais pas s'ils ont vraiment leur mot à dire par rapport à cela. Faudrait leur demander. Je vais noter. Je leur demanderai la prochaine fois si je les vois.
Peut-être qu'on peut écouter un peu de musique à présent, si vous le souhaitez.
Oui, alors je propose donc d'écouter ce Sega hein, mauricien dont je parlais, qui est très connu, je pense surtout par les jeunes, hein, puisque lorsque je le mets en cours, je le diffuse en cours dans un module intitulé Contact de langue et diversité linguistique. Mes étudiants de licence et de master, ils connaissent la chanson, mais ils ne savent pas que c'est du créole mauricien. Donc c'est DJ Assad, Li Tourné de donc Sega mauricien. Turn up the volume,
la la, la vina gla gla. Pouti pouti, li pou danse, dans tout côté, li pou tourne. Mette les go devant, se les go derrière. Li tourne, li tourne. Il met son corps devant et son corps derrière. Li tourne, li tourne. Mette les go devant, se les go derrière. Li tourne, li tourne. Il met son corps devant et son corps derrière. Li tourne, li tourne.
Pour cette pause musicale, Priscille Atoy, mon invitée aujourd'hui, enseignante-chercheure à l'Université de Tours. Je crois que vous vouliez revenir sur les discriminations linguistiques.
Les discriminations linguistiques, oui, puisque je travaille, c'est une question sur laquelle je travaille, les discriminations linguistiques, la glottophobie, la discrimination donc par l'accent, hein, discriminer... un locuteur, la personne que l'on a en face de soi, puisqu'on considère qu'il ne parle pas de la manière qui est attendue, de la façon qui est attendue, donc discriminé par les accents. On a eu le cas en France avec Castex, par exemple, ou même avec Jean-Luc Mélenchon, hein, qui s'est... violemment attaqué à une journaliste, je me semble que c'était France 3, je ne sais plus, enfin, qui avait un... Voilà, qui disait « Ah, mais je ne vous comprends pas, est-ce que vous pourriez parler en français ?» Donc, oui, donc c'est cette arme glottophobie qui a été forgée par le sociolinguiste Philippe Blanchet pour parler de discrimination langagière. Et que finalement, cela peut porter atteinte, hein, puisqu'on se dit « Ah oui, mais c'est gentil, c'est mignon, on s'en moque de manière légère. » Mais ça peut créer une véritable insécurité linguistique chez le locuteur. L'insécurité linguistique, c'est un terme utilisé en linguistique. L'insécurité linguistique, donc, pour dire que l'on ne se sent pas à l'aise par rapport à sa manière de parler. Et donc, cela cela engendre un certain malaise chez la personne, une honte de soi, ce qu'on appelle même de l'auto-audit. Encore une fois, pour utiliser un terme de linguiste, l'auto-audit, donc la haine de soi, ça, on en revient à cela, à se sentir tellement stigmatisé, marginalisé, dévalorisé, qu'on perd confiance en soi. Lorsque j'ai fait du terrain, les personnes que j'ai interrogées me disaient « mais moi je me tais, je n'ose même pas ouvrir la bouche puisque voilà, j'ai un fort accent mauricien, je parle français mauricien et face à des Français de France, ben, on va se moquer, on va froncer les sourcils, on va avoir un léger sourire et donc moi je préfère me taire. » Donc ça renferme le locuteur dans du mutisme. Je pense que c'est grave, on n'en parle pas, mais c'est tabou et c'est quelque chose qui existe et qui devrait être connu.
Et d'ailleurs, est-ce que c'est peut-être une expérience que vous avez fait vous-même ?
Alors, je suis arrivée en France très jeune, à l'âge de 18 ans, et j'ai moi-même été sujet à cette insécurité linguistique, puisque voilà, j'avais un accent mauricien, et on me dit « Ah, mais t'as un accent bizarre, j'utilisais des termes de français mauricien, on se moquait de moi, moi je ne comprenais pas forcément, et après, bien sûr, j'ai compris, voilà, ça se dit pas comme ça, mais il faut dire telle chose, enfin tel mot plutôt qu'un autre. » Et pour l'avoir vécu, donc, l'insécurité linguistique, j'ai travaillé dessus, ma thèse a porté sur l'insécurité linguistique, je peux vous dire que voilà, je mets à la place des témoins, des personnes que j'ai interrogées, et je me dis que c'est une souffrance, c'est une vraie souffrance de vivre en insécurité linguistique, oui.
Et est-ce qu'il y a peut-être des auteurs et autrices de Maurice que vous aimeriez nous recommander ?
Alors, je n'ai pas forcément fait toute une liste, mais là, bien sûr, enfin, de tête, enfin, de mémoire, bien sûr, Adinda Devi, Natacha Appanah, qui sont les auteurs les plus connus. Pour remonter un petit peu dans le temps, on a Malcolm de Chazal, qui a été un auteur prolifique il y a quelques temps. Hein. Donc, Amarnath Hossaini pour la littérature jeunesse. Il y a aussi Davina Itou, qui se fait de plus en plus connaître maintenant, qui a eu des prix de l'India Océanie, il me semble, prix de RFI, etc. Ah oui, Mariam Sheikh Farid, que j'ai invitée récemment pour une journée d'études à l'Université de Tours, qui parle justement du syndrome de l'accent étranger. C'est un roman qui lui a été inspiré par des faits réels, puisque le syndrome de l'accent étranger, c'est une pathologie. On peut se réveiller comme ça du jour au lendemain suite à un traumatisme en ayant un accent étranger. Par exemple, un Américain du Texas qui a un accident de voiture, ou, enfin peu importe, hein, qui subit un certain traumatisme, qui se réveille en parlant anglais mais avec un accent chinois par exemple. Et vous imaginez, enfin, ce sont des choses qui arrivent, enfin, qui existent, et que la science, les médecins ne comprennent pas, ne savent pas comment ça se manifeste. Ce sont des cas très très rares dans le monde, mais qui existent. Et ces personnes qui ont été victimes de ce syndrome de l'accent étranger, ils vous disent que leur vie bascule. Puisqu'ils ne parlent plus, voilà, ils ne se sentent plus reconnus dans leur propre pays. Et donc voilà, enfin, j'ai choisi de vous citer par exemple ce syndrome de l'accent étranger, puisque j'en parle aussi dans ma thèse et que c'est vraiment un bon exemple pour illustrer cette insécurité linguistique que l'on peut ressentir et qui est néfaste finalement, que je tiens à souligner, puisque souvent on me dit « ah non, mais c'est rien, c'est gentil ». Non, c'est pas, ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus profond que cela.
Est-ce qu'on aura le plaisir de pouvoir lire votre thèse quelque part ?
Elle est disponible en ligne, comme toutes les thèses. Ma thèse est disponible en ligne et je pense aussi à la faire publier dans une version grand public bientôt. Je travaille dessus. Voilà, il sera beaucoup plus digeste, je pense, que de lire un pavé de 800 pages. J'espère pouvoir faire une version grand public bientôt. J'y travaille.
Voilà, et bien, n'hésitez pas à nous dire quand cette version grand public sera parue pour qu'on puisse le relayer à nos auditeurs. Alors, cette émission approche lentement mais sûrement de sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, Cécile Atoy.
Alors, pour moi, qui suis sociolinguiste, qui travaille sur les variétés de langues, qui prône la diversité linguistique et culturelle, hein, puisque ça fait partie intégrante des modules que j'enseigne et des recherches sur lesquelles portent mes recherches, je dirais que, voilà, en tant que scientifique, que chercheur, que l'on doit accepter la diversité linguistique et culturelle qui est très riche en France également, puisque voilà, contrairement à ce qu'on peut penser, la France est aussi un pays plurilingue, hein, avec des contacts de langue très présents. Hein. Il suffit d'aller à Marseille ou même à Tours, à Paris, partout, enfin même à Tours, on entend plusieurs langues qui se côtoient. C'est ce qui fait la richesse de notre pays, cette diversité linguistique et culturelle, qu'il faut en être fier de parler créole, de parler picard, de parler corse, de parler breton, qu'il faut valoriser nos langues régionales, valoriser les langues qui sont présentes sur le territoire et que c'est une vraie richesse. Souvent, on a tendance à en avoir honte. Moi, je me souviens aussi de personnes qui me disent « mais je ne vais pas parler arabe dans l'espace public ». Lorsqu'on est à la maison, on parle en arabe, mais dans l'espace public, moi, je parle en français, puisque sinon, on me regarde avec de gros yeux, mais j'aurais tendance à dire non. C'est une vraie richesse que d'être bilingue, trilingue, polyglotte, et soyez fiers de votre plurilinguisme. Soyons-en fiers, voilà. C'est le message que j'aimerais faire passer. Voilà, puisque je ne suis pas une puriste, je ne suis pas une linguiste qui travaille sur la pure, enfin, je sais pas, on ne parle pas d'une langue pure, voilà. On ne peut pas parler d'une langue pure, ça me fait penser, enfin, pour terminer là-dessus, puisque sinon je suis vraiment trop bavarde, puisque pour terminer là-dessus, je pense à mes collègues qui ont travaillé sur le tract des linguistes. Je pense que, voilà, c'est d'actualité en ce moment, c'est paru il y a quelques jours, quelques semaines. Le tract des linguistes. Qui revendique donc cette diversité culturelle et linguistique, parler de la pureté de la langue, voilà, enfin, c'est quelque chose qui, voilà, qui n'a pas forcément de sens. Si on parle de langue pure, donc ça voudrait dire qu'il y a des langues bâtardes. Mais bon, je vais m'arrêter là et pour ne pas dépasser l'horaire.
Merci beaucoup à vous, Priscille Atoy, d'être venue dans cette émission et d'y avoir consacré tout ce temps. Je vous propose d'écouter justement un court documentaire d'Arte Radio qui s'appelle L'accent jambon. C'est l'autre accent de Marseille.
Merci Mélissa.
17.
Allez, 15 euros les beaux merlards.
17. Et 3 qui font 20.
Excusez-moi, je peux vous poser une question ?
Oui, dites-moi.
Je fais un sujet sur l'accent jambon. Est-ce que vous connaissez ? Ça vous dit quelque chose ?
Là ?
L'accent jambon.
Nous, c'est l'accent Marseille, là, c'est l'accent poissonnier, c'est pas pareil.
L'accent jambon beurre, c'est le bourgeois marseillais.
Jambon, tu vois, comme le jambon ne parle.
Évidemment, le simplement.
Évidemment, simplement, très simplement.
C'est quoi l'accent jambon alors?
Bah, c'est celui qu'on vient de faire, c'est-à-dire tu rentres un petit
alors,
peu.
Alors vas-y.
Bon, l'accent jambon, c'est un accent qui concerne une catégorie limitée de personnes à Marseille. Je dirais qu'ils sont avec un accent marseillais un peu fort, mais qui peut-être cherchent à le rentrer un peu.
C'est dans le 8e. C'est dans le 8e. Ici, vous n'en trouverez pas avec l'accent.
Mais par contre, si tu vas à la Pelle, ce club qui est en bas de la corniche.
Vous prenez sur votre droite, il y a le club nautique.
La Pelle ? C'est une institution marseillaise, la Pelle. La Pelle, mon arrière-grand-mère y était inscrite en 1938 ou 40. Vous allez maintenant, la moyenne d'âge est de 110 ans à 120 ans.
On veut cacher un peu cet accent de populaire, on le transforme, ça monte dans le nez.
Quel genre d'accent exactement, l'accent jambon ?
C'est en fait des Marseillais bourgeois, nous, qui veulent rester à l'accent pointu, mais qui sont Marseillais, c'est ça, oui. Ah, c'est pas mal, ouais, c'est intéressant ça, ouais, d'accord. Et c'est pour qui, quel...
Arte Radio.
Ok, d'accord, très bien, ah, ouais, c'est pas mal.
Ah, c'est ça, le jambon, c'est
ouais,
le côté...
C'est le côté
bourgeois marseillais, quoi.
Bonjour marseillais.
Mais ici, c'est comme on disait, hein, c'est un paradis. C'est un petit paradis. Alors, c'est dû sûrement au climat de Marseille, hein, qui est un climat quand même merveilleux.
C'est le refus du vernaculaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la bourgeoisie le refus du terreau.
Moi, comme je disais, on vit dans un cocooning ici à Marseille.
C'est vraiment ouais. Ça. Et c'est pas parisien, c'est pas marseillais, c'est jambon.
Votre mari était banquier
oui.
Et vous travaillez?
Non.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, bonne continuation
merci.
Pour vous.
Arte Radio.
Et puis venez à l'appel, je vous invite. Hein. Bonne journée.